Voilà pour les premiers mots de Donald Trump à la sortie de ce premier jour d'audience au tribunal de New York. C'est une escroquerie. Il avait déjà dit avant d'entrer dans le tribunal que c'était une persécution politique inédite. Et donc ce soir, il renouvelle ses propos. Escroquerie, chasse aux sorcières, c'est pas un procès équitable. 12 jurés qui n'ont que ça à faire de s'occuper de moi, la défense de Donald Trump, qui est dans une stratégie offensive, pour reprendre les termes de Charles Consigny. On va vous interroger dans un instant, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce procès, Charles. Ulysse Gosset est revenu nous rejoindre en plateau, et Stéphane Bureau, consultant aux États-Unis, BFM TV. Mais on va tout de suite prendre la direction de New York, Benoît Ballet. Benoît, racontez-nous un petit peu cette première journée d'audience. Comment ça s'est déroulé?
Alors, il y a d'abord eu des échanges entre les avocats de Donald Trump, les procureurs et puis le juge pour régler un certain nombre de dossiers, de questions, de motions en attente, lors desquelles notamment Donald Trump a tenté une dernière fois de torpiller ce procès en demandant au juge Merchan, qui va diriger les débats, de se récuser lui-même, ce que le juge a refusé de faire. Ensuite, il y a eu la pause déjeuner, et puis on a repris cet après-midi avec les vraies questions, le vrai procès en quelque sorte, et le début de la sélection de ce jury populaire. On a vu ce premier lot de 96 personnes sur les 500 qui vont défiler, qui vont être présentées aux différents acteurs du tribunal. On a vu ces 96 personnes entrer dans la salle, s'asseoir, regarder d'un coin de l'œil l'accusé, Donald Trump, cet ancien président des États-Unis et candidat républicain à la prochaine élection présidentielle du 5 novembre, dans moins de 8 mois, faut-il le rappeler, avec des gloussements pour certains dans les bancs des jurés. Et puis il y a eu ce moment extraordinaire où le juge Merchan demande aux jurés si certains ne se sentent pas de rester impartial pendant la durée de ce procès. Et à ce moment-là, il y a 50 mains qui se lèvent en même temps. Ça veut dire que 50 des 96 jurés qui ont été présentés aujourd'hui ont été excusés d'office. Plus de la moitié de potentiels jurés présentés aujourd'hui ne pourront pas être des jurés. C'est absolument énorme. C'est vraiment rare dans des procès comme celui-ci. Donc il n'y a eu aujourd'hui aucun juré qui a été sélectionné. La première journée de procès est terminée et le procès reprendra demain matin à 9h30 pétante ici aux États-Unis à New York.
Merci Benoît Bellet avec Camille Fournier. Donc reprise du procès demain matin à 9h30. On voit un convoi de voitures quitter le tribunal. Ulysse, probablement que l'ancien président américain se trouve dans ce convoi de voitures. Il devrait passer la nuit à New York parce que demain matin, il sera de retour au tribunal.
Oui, ça a dû être une journée quand même assez éprouvante. Il faut s'imaginer l'esprit de cet ancien président. Quand même, c'est un ancien président, c'est pas rien aux États-Unis, et c'est surtout un candidat pour la prochaine fois, si j'ose dire, pour l'élection de novembre prochain. Donc cet homme qui veut accéder à nouveau au pouvoir suprême est obligé de subir cette journée de sélection des jurys. D'abord, l'humiliation que représente pour lui sa simple présence devant un juge qu'il déteste. Il a même dit tout à l'heure, j'ai un problème avec le juge. Juan Merchan, qui est pourtant un vétéran de la justice, ouais. qui est quelqu'un de très rigoureux, très strict. Il a essayé de le faire expulser, si j'ose dire, de s'en débarrasser à deux reprises. Il n'a pas réussi. Mais vraiment, il y a une sorte d'affrontement personnel, je dirais, entre le juge et Donald Trump. Et surtout, on a vu son visage lorsqu'il est arrivé. Il avait l'air très là, enfin, fatigué de subir ce qu'il appelle une persécution. Donc, pour Donald Trump, c'est, je pense, une forme d'humiliation. Et en même temps, on voit que ça reste quelqu'un d'extrêmement combatif. C'est-à-dire qu'il va essayer de retourner à son avantage en se disant effectivement victime d'une persécution, en accusant le juge et le système fédéral et le Parti démocrate de s'acharner contre lui, contre l'Amérique, et il en profite pour critiquer Joe Biden. Donc il va se servir de la tribune du tribunal, si j'ose dire, le matin et le soir, chaque jour en arrivant, et demain, il va devoir revenir sagement devant le tribunal, et avec un juge qui, à chaque fois qu'il veut sortir des règles, sortir des clous imposés par le juge, eh bien, va le remettre en place. Donc c'est une épreuve, je dirais, quotidienne, difficile, et qui va durer probablement 6 semaines, peut-être même plus.
On a vu le visage de Donald Trump avant l'audience, on a vu le visage de Donald Trump après l'audience, et on aimerait savoir l'attitude qu'il avait pendant l'audience. Et écoutez, c'est raconté par une journaliste américaine, Maggie Eberman, sur CNN.
Donald Trump avait l'air d'être somnolent, presque endormi. Sa tête penchait par moments en avant. Il y a eu aussi d'autres moments dans ses autres procès, comme celui de janvier, où il apparaissait très calme, comme s'il était en train de dormir, avant de finalement bouger. Mais cette fois-ci, il n'a même pas fait attention aux notes que lui passait son avocat. Sa mâchoire semblait atteindre sa poitrine. Il bâillait énormément. Parfois, des gens s'endorment pendant des procès. Mais cela paraît étrange vu l'importance de cette affaire.
Il a changé.
Il semblait endormi, somnolent. Qu'est-ce que cette attitude nous dit, Stéphane ?
Je ne voudrais surtout pas spéculer sur les dispositions du président ou de l'ancien président lorsqu'il est arrivé aujourd'hui en cours. Ce qu'on peut avec certitude dire, c'est que c'est un homme qui a effectivement fait face à plusieurs vexations, pour dire le moins, depuis un certain temps, qui encaisse des pressions qui sont hors normes, même pour un candidat qui se destine à la présidence. Si on combine toutes ces affaires judiciaires à la campagne présidentielle qu'il mène et aux pressions financières qui sont exercées sur lui, on se rappelle quand même qu'il a été condamné dans une autre affaire à payer 454 millions de dollars d'amende. On lui demandait de les déposer en caution. Il a négocié à la baisse, à 175. Mais c'est son empire, c'est l'intégrité de ce qu'il a construit qui est aussi remis en question. Donc, pour toutes ces raisons, à 77 ou 78 ans...
C'est un vieux monsieur, hein? On l'oublie.
Voilà, mais je ne sais pas si...
Il n'est pas beaucoup plus jeune que Joe Biden.
Ils sont nombreux à avoir ou qui auraient aujourd'hui la capacité à encaisser les coups. Donc, peut-être qu'il a pris un coup de mou parce que les journées d'abord sont très, très longues. C'est pas non plus palpitant à tous les instants. Alors, peut-être qu'il s'est un peu assoupi. Ça serait... Est-ce normal dans les circonstances? J'en sais rien.
Il y a un décalage, Charles, entre son attitude physique qu'il a pu afficher et puis les mots beaucoup plus offensifs, agressifs qu'il a pu prononcer.
Non, mais après une journée d'audience, c'est normal d'être fatigué. Même les avocats, quand on n'est pas personnellement visé, après une journée d'audience, on est fatigué. Surtout, paradoxalement, les audiences où il ne se passe pas grand-chose, ce qui était le cas de l'audience d'aujourd'hui à New York. Moi, je suis très intéressé par ces procès qui visent Donald Trump, parce que je constate que, en tout cas en France, parce que c'est Trump, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il peut mettre en avant pour se défendre est forcément faux, forcément exagéré, forcément modifié à son profit. Et en revanche, toutes les accusations contre lui, alors là, sont forcément vraies, sont forcément impartiales, et il est forcément très coupable. Et moi, ce qu'on voit quand on regarde le détail des choses, c'est qu'il affronte effectivement des juges politisés souvent. C'est-à-dire que dans l'audience d'aujourd'hui, le procureur qui était contre lui est un procureur élu sous les couleurs démocrate. Il affronte une procureure, Laetitia James, qui lui avait demandé les 500 millions de dollars, c'est quand même pas rien, de caution, et qui ont été jugés en appel totalement excessifs et qui, comme ça a été rappelé, ont été baissés à 175 millions, c'est-à-dire quand même moins de la moitié. Que voulait Madame James ? Elle voulait qu'il soit obligé de vendre la Trump Tower. En tout cas, elle voulait que la Trump Tower soit saisie par la justice. On lui reproche en plus des choses. Les 500 millions de dollars, ça n'a rien à voir avec la politique, rien à voir avec je ne sais quelle manipulation électorale. C'est une soi-disant surévaluation de ses actifs immobiliers dans le cadre de son groupe. Donc, ce que je constate, c'est que il a partiellement, à mon sens au moins, raison de dénoncer une chasse.
Alors, j'aimerais juste qu'on essaie quand même de, parce qu'on n'a pas encore parlé du fond de l'affaire.
Bah
donc
oui,
avant d'évoquer les enjeux, les protagonistes, la façon dont va se dérouler le procès, on va peut-être essayer de comprendre quelles sont les accusations précisément qui passent contre Donald Trump avec vous, Lisa.
Oui, 2018, Stormy Daniel, star américaine de l'industrie du film pornographique, donne une interview à la chaîne CBS dans laquelle elle révèle des informations graves. Elle dit « J'étais sur le parking pour aller à mon cours de fitness avec ma fille. Un homme s'est pointé et m'a dit « Laisse Trump tranquille, oublie l'histoire. » Puis, il a regardé ma fille et a dit « C'est une jolie petite fille, ce serait dommage que quelque chose arrive à sa mère. » Stormy Daniels explique qu'elle prend ça comme une menace directe, comme une intimidation. Elle n'ose pas aller voir la police parce qu'elle a peur pour sa famille. Alors, elle accepte, selon elle, de signer signé un accord de confidentialité contre une grosse somme d'argent et elle se met à nier publiquement avoir eu une relation avec Donald Trump. Elle raconte qu'un ou plusieurs hommes de main de Donald Trump sont revenus la menacer. Ils peuvent faire de ta vie un enfer et de plusieurs façons différentes. Pour comprendre pourquoi Stormy Daniels reçoit ces menaces, c'est parce que 12 ans plus tôt, il faut remonter en arrière, en 2006, elle rencontre Donald Trump à un tournoi de golf. À l'époque, le milliardaire est déjà marié avec Melania, toujours sa femme aujourd'hui. Et Stormy Daniels raconte qu'à la fin de cette journée, elle a couché avec Donald Trump, ce que lui nie.
Alors, c'est pas vraiment cette relation qui pose problème à la justice, c'est plutôt la filouterie politique, ça va pas plaire à Charles, qui est autour de cette affaire.
Oui, c'est ça, parce que cette histoire d'infidélité est enterrée dans le sable au fur et à mesure que les années passent. Mais 10 ans plus tard, la vague de la course à la Maison-Blanche fait remonter cette affaire à la surface. En 2016, Donald Trump est donc candidat. Michael Cohen, son avocat, verse 130 000 dollars à Stormy Daniels contre son silence. Elle le dit. Michael Cohen, l'avocat aussi, mais Donald Trump dément toujours. D'autant plus que ces 130 000 dollars ne sont pas sortis du portefeuille de Michael Cohen, mais de la Trump Organization, et en falsifiant des documents pour dissimuler l'argent versé à l'actrice pornographique Stormy Daniels, Donald Trump a attiré l'attention de la justice sur une fraude comptable qui fait partie de 34 autres fraudes pour lesquelles Donald Trump est aujourd'hui devant la justice.
Merci Lisa. Stéphane, c'est pas... je veux dire, c'est pas l'affaire la plus grave qui pèse pour
mais
Donald
c'est
Trump.
C'est celle qui peut la faire chuter.
Mais c'est ça, c'est le seul procès qui aura... avec certitude, avant l'élection présidentielle.
Avec certitude, parce qu'effectivement, peut-être d'autres des procès pourraient avoir lieu avant le mois de novembre, mais on sait que là, il y aura probablement un verdict de rendu. C'est le moins compliqué des procès pour M. Trump. Je pense que la preuve sera très difficile à faire pour M. Bragg. Et je me permets de rebondir sur ce que disait Charles tout à l'heure. Au sujet de la perception de cette idée qu'il y aurait une chasse aux sorcières. Alors, je parlais de l'amende folle, 450 millions de dollars qu'il devra payer s'il est reconnu coupable en appel.
Mais c'est pas sur ce procès
du tout, du tout, du tout.
C'est pour ça qu'il y a une espèce de confusion. Il y a trois procès.
Mais ça crée, en fait, il y en a quatre.
Même quatre.
Et il y en a eu aux civils qui ont précédé. Alors, il a été reconnu coupable, d'ailleurs, d'agression dans un procès civil et dans un autre cas, son entreprise, ses entreprises, d'avoir gonflé artificiellement leurs revenus. Je reviens là-dessus parce que ça crée une perception. Alors, il faut voir qu'il y a d'autres promoteurs immobiliers qui peut-être pourraient se retrouver aussi dans le collimateur de la procureure de New York. Or, aucun ne se retrouve dans son collimateur. Et dans ce cas-ci, il n'y a aucun plaignant, il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'allégations qui sont faites. C'est l'État qui a pris à sa charge l'idée de dire « ben, il y a un tort et nous allons le redresser ». Et on fait payer M. Trump 454 millions de dollars, ce qui en soi aussi est à tous égards historique. Alors, ça crée cette perception, d'autant que la dite procureure a des ambitions politiques, aimerait être gouverneur de l'État de New York, est effectivement démocrate.
Mais c'est classique.
Exactement, c'est pas unique à celle-ci.
La
justice est politisée.
Ils veulent tous être gouverneurs de New York.
Si je rappelle tout ça, c'est parce que ça donne effectivement un ton. Et il y a des électeurs de M. Trump qui sont convaincus qu'il y a une chasse aux sorcières, que la justice est instrumentalisée. Il faut comprendre le contexte. Alors aujourd'hui, ce procès, comme vous le disiez, c'est probablement le seul qui se conclura avant les élections. S'il est reconnu coupable, c'est extraordinairement fâcheux. En général, les sondeurs nous disent...
Mais ça ne l'empêche pas d'être président.
Mais d'aucune manière. D'abord parce qu'il pourrait aller en appel.
D'être candidat, voilà.
Il pourrait aller en appel. Et puis même si le juge décidait...
Il risque quoi avec ce procès?
Parce que
faut quand même préciser juste une chose. Pourquoi? Parce que la falsification de documents en soi, c'est un délit. Pourquoi là, c'est jugé au pénal?
En fait, parce que le procureur, très imaginatif, a tiré la conclusion qu'il y avait une intention. C'est-à-dire que le délit, qui ne mériterait qu'une amende, est un crime parce qu'on a fait la démonstration que c'est une contribution électorale illégale qu'aurait fait le président en jouant dans ses livres comptables et en permettant de faire disparaître cette histoire de la circulation qui aurait pu lui nuire, le témoignage de Stormy Daniels pendant les élections de 2016. Alors, il y aurait une intention, et c'est cette intention qui fait que c'est un crime. Tous ces chefs d'accusation sont proportionnels au nombre de chèques qu'a fait M. Trump pour rembourser son âme noire, son avocat, qui, lui, était la courroie de transmission.
J'aimerais qu'on donne la parole à Olivier Piton. Bonsoir, vous êtes avocat français installé aux États-Unis, auteur de La Nouvelle Révolution américaine aux éditions Plon. Il y a plusieurs protagonistes dans ce procès qui ont été évoqués autour de la table, à commencer par le juge, donc Juan Merchan, qui a rapidement été pris en grippe par Donald Trump. Charles Consigny, en plateau, nous disait il n'est pas impartial comme juge. Qui est-il? Qu'en pensez-vous?
Procureur, moi.
parlais du procureur, pardon, et non pas du juge du siège.
Alors bon, alors on va faire les deux personnages. Voilà, parce qu'on a Alvin Bragg aussi qui est le procureur. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces deux protagonistes?
Alors d'abord, il faut effectivement recadrer le contexte. C'est quand même un éléphant énorme dans un magasin de porcelaine. On est face à une situation tout à fait inédite où on a, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ex-président qui va se retrouver jugé au pénal aux États-Unis, en l'occurrence par la Cour de New York. On est quand même dans un événement absolument exceptionnel, même si, comme cela a été rappelé, de tous les dossiers qui poursuivent Donald Trump, celui-là est probablement le moins facile et le moins convaincant pour la partie qui va tenter de l'accuser. Pour en revenir à votre question, on a un juge à la Cour suprême de New York qui s'appelle Juan Merchan, qui est effectivement quelqu'un qui est réputé comme étant assez ferme sur ses convictions et qui va tenter l'impossible, c'est-à-dire de maîtriser un procès, c'est-à-dire de ne pas en faire forcément une plateforme politique pour Donald Trump tout en respectant les droits de la défense, ce que Charles Consigny a rappelé tout à l'heure avec justesse. Et puis d'un autre côté, il y a Alvin Bragg. Alors lui, c'est le procureur du district de Manhattan et c'est lui qui portera le dossier de l'accusation. En gros, de quoi est accusé Donald Trump ? Il est accusé d'avoir cherché non pas à acheter le silence de Stormy Daniels, mais d'avoir maquillé le paiement supposé. Et là, ça peut devenir un crime, une félonie, comme on dit ici aux États-Unis, visant à violer en fait la législation sur le financement de la campagne électorale de 2016 aux États-Unis. Et toute la problématique pour les 12 jurés dont on voit à quel point il est difficile de réussir à les désigner, puisque 50 ont été récusés, comme cela a été dit tout à l'heure, toute la difficulté, et c'est simple, c'est que au-delà, selon la formule consacrée, de tout doute raisonnable, les 12 jurés, dans leur ensemble, puisqu'il s'agit d'un procès au pénal, devront estimer que Donald Trump a effectivement triché. Et si ça n'était pas le cas, politiquement, incontestablement, le procès serait en fait une plateforme pour Donald Trump. Et toute la difficulté actuellement et du juge et du procureur, c'est d'arriver à tenir la crête dans une problématique extrêmement complexe.
On va voir les enjeux dans un instant judiciaire et politique, bien sûr, autour de ce procès et la sélection des jurés. C'est passionnant la façon dont ces jurés sont sélectionnés. On va en parler dans un instant avec vous, Élise Gosset. Mais j'aimerais encore juste un mot sur le juge, donc Juan Merchan, et sur Alvin Bragg. La défense de Donald Trump, on a pu voir ces derniers jours que le juge, Juan Merchan, avait fait l'objet d'une campagne active du camp de Donald Trump qui a laissé sous-entendre qu'il n'était pas impartial, qu'il s'appuie sur les activités consultante de sa fille. Ils ont lancé des fausses rumeurs contre lui. Et puis sur Alvin Bragg, j'aimerais qu'on regarde ce tweet aussi qui a été publié par Donald Trump. Une image qui a été publiée sur son réseau social à lui, Truth Social. Une photo de lui-même qui brandit une batte de baseball et une autre qui montre la cible de son gourou qui est Alvin Bragg. C'est une tentative de déstabilisation, intimidation.
C'est pas génial ce genre de photo. Ça fait partie du style politique de Donald Trump.
Mais là, ça va plus loin que la provocation.
Cela dit, les juges politisés, ça existe. Pardon de vous le dire, ça existe aux États-Unis, ça existe en France, et il faut arrêter de penser que les juges sont exempts de toute faiblesse, de tout penchant politique. C'est pas parce que vous êtes magistrat que vous êtes quelqu'un qui va forcément se comporter de manière totalement impartiale. Ayons quand même une réflexion sur l'interventionnisme répété maintenant, et même obsessionnel, je trouve, d'une certaine magistrature dans le monde politique. Regardez ce qui est arrivé à Édouard Philippe il y a quelques semaines. Comme par hasard, vous avez quelqu'un qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle, qui est peut-être le prochain président de la République. Il y a une plainte d'une ancienne collaboratrice qui le vise. Qu'est-ce qu'on déclenche contre lui ? Une perquisition pendant pendant toute une journée, des dizaines d'enquêteurs sur place. Non mais pardon de vous dire, à la mairie du Havre...
On va recentrer le débat sur le procès de Donald Trump et sur la défense de Donald Trump.
Parce qu'il y en a partout. Et je constate que quand les politiques se défendent contre ces ingérences judiciaires, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à le faire. Et je trouve d'ailleurs que Trump le fait aux États-Unis d'une manière franchement assez admirable, puisqu'il ne ploie pas devant la violence.
Attendez, moi je veux aussi recentrer le débat sur ce type absolument épouvantable qu'est Donald Trump. Je vais quitter la salle d'audience et rappeler quand même ce qu'est l'histoire de Donald Trump vis-à-vis des femmes, qui est absolument absolument indécent et incroyable. Merci de ne pas m'interrompre. Les déclarations qu'il a fait sur Hillary Clinton, si elle n'est pas capable de satisfaire son mari, elle n'est pas capable de satisfaire l'Amérique.
Mais là, en l'occurrence, il n'est pas jugé sur ses relations avec les femmes. Non, mais vous avez raison de le rappeler, mais en l'occurrence, c'est jugé.
C'est absolument épouvantable. Ouais. Des déclarations sur sa fille Ivanka, qui sont à la limite, enfin, qui sont un appel à l'inceste qui est absolument intolérable, les déclarations qu'il fait à l'avocate qui s'appelle Madame Kaplan, de toute façon, en parlant de l'affaire Carole, cette affaire qui a suscité d'ailleurs des versements d'indemnités extrêmement importantes, de toute façon, pourquoi je ne l'ai pas baisé? Parce que c'était pas mon genre, et puis vous non plus, je vous baiserai pas parce que il est sous serment. Enfin, ce type est absolument épouvantable. Il y aurait la moitié, le dixième de ce qu'il fait, de ce qu'il dit dans la vie politique française, il serait immédiatement éliminé.
Rosine Bachelot, pardon. Il y a eu Strauss-Kahn pendant des années.
Pardon,
Il ne s'est jamais rien passé. Non, mais c'est pas
vrai. Rosine, Charles, on s'éloigne. Alors, on parle de l'attitude de Donald Trump. Pardon de vous interrompre, mais il y a énormément de choses à dire sur ce procès qui est quand même, il faut le rappeler, c'est un procès historique. C'est la première fois qu'un ancien président américain est jugé au pénal. On a 7 mois de la campagne présidentielle, donc j'aimerais qu'on recentre quand même les choses sur ce procès, sur les conséquences.
Avec toutes les conneries qu'il a faites, il n'a jamais fait.
Mais il n'a pas été jugé au pénal.
Jamais. Clinton non plus. C'est des gens qui méritaient des procès pénals.
Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que c'est politiquement payant à ce jour.
Alors c'est ça.
C'est terrible.
Réussit-il ce tour de force? Parce que jusqu'à présent, ces déboires judiciaires, jusqu'à présent, dans l'histoire politique américaine, quand des politiques étaient accusés de scandales, ils devaient s'excuser publiquement, faire repentance d'une certaine façon. Et là, il y a un changement de donne. Là, au contraire, il a réussi à retourner la situation en sa faveur. Comment il a réussi?
Et dans la culture protestante américaine dominante, la repentance est très importante. Or, le personnage qui nous intéresse ce soir n'est pas repentant, mais alors là, pas du tout. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des
Je vous interromps juste pour décrire l'image. C'est Donald Trump qui, après sa journée d'audience, arrive à la Trump Tower avec toujours ce même geste, Ulysse, qu'il a fait déjà en arrivant
le point
ce
levé,
matin.
Le point levé, qui est une forme de défiance à l'égard de la justice et du juge qu'il considère comme un ennemi personnel.
Pas de défiance, de défi.
Les deux. Mais ce que je voulais dire à propos de ce qu'on reproche à Donald Trump et des chefs d'accusation et de ce qu'a dit Roselyne Bachelot, il y a un risque. C'est vrai que ça va conforter ses partisans qui vont faire corps autour de lui. Par contre, l'électorat féminin risque de ne pas aller voter pour Donald Trump en raison de tous ces déballages publics. Et c'est ça le vrai problème pour Trump. C'est qu'il risque, s'il perdait l'élection, ça serait notamment à cause de l'électorat féminin, à cause de ce qui se passe dans le procès là, mais aussi à la cause de la bataille sur l'avortement. Et ça, il doit en tenir compte. Mmh. Et d'ailleurs, sur l'avortement, il a été obligé de faire évoluer sa position parce qu'il s'est bien rendu compte du danger. Alors, maintenant, ce qui est important, et quelles que soient les accusations qu'on peut porter sur le juge, c'est un juge qui est quand même très rigoureux, qui est en fonction depuis 17 ans. C'est vrai qu'il est coriace, mais c'est son job. C'est vrai qu'il est élu. Mais en tout cas, il essaye de mener un procès sur des faits qui ont été avérés. Et le principal fait avéré, c'est que Trump a, lui ou ses conseillers, ont falsifié des documents qui relèvent du fisc américain. Alors, s'il n'y avait que l'accusation en l'air, on pourrait se dire c'est un procès politique. Mais le problème, c'est qu'il y a un homme qui va être convoqué comme témoin,
Michael
qui est
Cohen,
l'ancien avocat de Donald Trump, qui l'a aidé,
qui est devenu
finalement,
sa bête noire aujourd'hui,
à commettre ce crime, entre guillemets, qui lui vaut d'être aujourd'hui convoqué devant un tribunal. Et c'est Michael Cohen, qui lui-même a été emprisonné, condamné, qui aujourd'hui se retrouve donc au tribunal pour expliquer ce qu'a fait Donald Trump. Donc ça, c'est pas un procès politique, c'est un procès qui correspond à quelque chose de concret.
De toute évidence, il semble bien que ce soit vrai, qu'ils ont effectivement indemniser cette personne, cette femme, la plaignante.
C'est pas ça qui est en cause. Ils ont falsifié les documents.
Mais parce qu'ils étaient obligés. Ils n'allaient pas, de manière officielle, indemniser une ancienne actrice de X à 10 jours du premier tour de l'élection.
Ils étaient obligés
pour dissimuler un rapport sexuel. Ça m'a réfléchi 7 secondes. Et Michael Cohen, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'il a dit ce qu'il a dit? Et je pense que ça va être ça la défense de Trump, c'est qu'aux États-Unis, si vous ne plaidez pas coupable, vous prenez un risque de condamnation qui est énorme. Et je pense que Michael Cohen, sur le conseil de son avocat, a choisi de plaider coupable et donc de reconnaître les faits devant l'accusation parce que ça lui permettait d'obtenir un accord pénal qui lui garantissait une peine.
Oui, mais en même temps, il a dit ce qu'il savait, c'est-à-dire la réalité du montage de Donald Trump. C'est ça qui est évidemment
très important. L'enjeu est de convaincre 12 jurés. Dans ce cas-ci, ça sera la bataille des menteurs si on accepte que M. Trump, à l'occasion, l'est. M. Cohen a menti à répétition sous serment au Congrès. Il s'est parjuré et c'est évidemment ce que les avocats de M. Trump vont faire valoir. Est-ce qu'on peut faire reposer l'affaire sur le témoignage, certes d'un ancien bras droit, mais qui est aussi un menteur avéré?
Ce procès, il va durer entre 6 et 8 semaines. On n'a pas eu le temps de développer ce qui allait se passer dans les prochains jours. Et pourtant, c'est passionnant parce que c'est la sélection des 12 jurés, ceux qui vont décider s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Ce sont des hommes, des femmes.
C'est pas le juge qui décidera. C'est un jury populaire.
C'est un jury populaire.
Aujourd'hui, il y a 500 Américains qui sont sélectionnés. Il en restera 12.
Ouais.
Vous imaginez la pression 12. Qu'il y a.
Et aujourd'hui, il y a toute une question sur effectivement l'impartialité, parce qu'on sait qu'on est à New York, on est dans des terres acquises aux démocrates. Et il y a effectivement toute une sélection qui va passer par un questionnaire qui a fait l'objet d'âpres négociations entre les deux camps.
42 questions.
42 questions.
Négociées de pied à pied par les avocats de M. Trump et les avocats représentant la couronne.
Oui, mais c'est par exemple, qu'est-ce que vous regardez à la télé? Est-ce que vous avez été à un meeting de Donald Trump? Est-ce que vous avez été à un meeting de Joe Biden? Que dit votre femme sur la situation? Est-ce que vous avez écouté des podcasts ou lu des livres de Michael Cohen, l'ancien avocat? Ouais. Enfin, c'est une sorte de balayage de la vie de chaque individu. Et dès qu'il y a un point qui fâche, eh bien, le jury peut être récusé. Donc, c'est un travail considérable. Jury, et je plains le pauvre Donald Trump, si on peut le plaindre. Désolé, Roselyne Bachelot. Mais il doit assister à cette sélection du jury.
Donc, il est obligé d'être présent tous les jours à l'audience pour assister à cette sélection qui va durer 1 à 2 semaines, c'est ça?
Exactement.
Notons qu'aux États-Unis, ils font ce travail incroyable avec les jurés populaires quand nous, dans le même temps, en France, on les supprime dans les cours d'assises. Mais après, on donne des leçons aux Américains.